Premièrement, vous avez beau avoir la meilleure idée au monde, le meilleur produit au monde, si vous n'avez pas une bonne façon de le vendre, ça ne fonctionnera pas. Fait que moi, j'ai vu que j'étais capable de vendre énormément de trucs en ligne. Ça a super bien marché et j'ai compris très tôt dans l'aventure du Beach Club, dans ma deuxième vie, là, que j'appelle là, après les IGA, que les vedettes font vendre.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 65e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement près de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Utiliser des actifs existants afin de lancer des organisations connexes est une des manières les plus rapides pour lancer une entreprise. Très souvent, on pense qu'on doit repartir un projet de zéro, mais la vérité est tout autre. Il y a plusieurs manières de lancer des compagnies rapidement et c'est ce dont on va aborder dans le 65e épisode de Hypercroissance. Mon invité du jour, Olivier Primo, président et fondateur du groupe Midway, est avec nous aujourd'hui pour discuter des étapes qu'il a suivies afin de commercialiser plusieurs de ses produits. Du Beach Club à sa boisson extrêmement populaire Beach Day Everyday, Olivier nous raconte aujourd'hui les dessous de ses stratégies de développement et de commercialisation. Vous allez noter dans l'entretien que malgré une année 2020 qui aurait pu totalement compromettre ses entreprises, Olivier a vu les choses différemment en concentrant ses énergies sur des actions qu'il pouvait contrôler. Sans plus attendre, ma discussion avec Olivier Primo. Olivier Primo, tu es PDG du groupe Midway qui est derrière la tenue des événements d'envergure comme le festival Métro-Métro à Montréal, le festival Escapade à Ottawa, les activités quotidiennes du Beach Club et plusieurs autres rassemblements de renom. En parallèle à tes activités dans le secteur événementiel, tu as été capable de bâtir un personal branding sur les médias sociaux avec une communauté de plus d'un million de personnes qui te suivent sur les différentes plateformes. Olivier Primo, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci de l'invitation, c'est super gentil.
Olivier, ce qui me fascine énormément dans ton parcours est le fait que tu as compris très rapidement l'impact qu'un personal branding pouvait avoir au niveau affaires. On a parlé événementiel plus haut, mais tu possèdes également d'autres organisations que tu arrives à propulser grâce à ta présence en ligne. Pourrais-tu nous dire aujourd'hui, c'est quoi la genèse du Olivier Primo qu'on voit en ligne chaque jour sur les médias sociaux?
Ben, premièrement, là, tu sais, le personal branding est très, très important, mais c'est un gros couteau à double tranchant. Là, puis j'aime le rappeler à tout le monde là, qui veut se propulser là, à l'avant de sa compagnie. Bon, là, c'est sûr que en ce moment, là, avec les réseaux sociaux et tout ça, là, on suit les Elon Musk, on suit tous les barstools de ce monde, les gros. Faut savoir que quand tu es à l'avant, puis je me compare pas à eux autres, ben oui, parce que en plus petit, mais je veux dire, je suis une image de ma compagnie, là. C'est super le fun. Puis j'aime le répéter parce qu'il y a énormément de personnes qui m'en parlent. C'est super le fun dans les beaux moments. Et c'est vraiment, 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 vraiment plate dans le 1% des moments qui sont pas le fun. J'ai eu un exemple la semaine passée. Des exemples, je peux t'en nommer 50 dans les 5 dernières années. Fait que c'est bien beau, mais c'est pas si. Il va arriver quelque chose, c'est quand? Parce qu'il arrive tout le temps quelque chose dans une compagnie. Puis c'est ça. Fait que tu sais, le personal branding, puis avant de parler de mes réseaux sociaux, je voulais en parler parce que je trouve ça important parce que il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent puis ils me disent souvent, Olivier, donne-moi un conseil, comment me mettre de l'avant avec ma compagnie. Puis tout ça, tu sais, il faut vraiment. C'est pas parce que tu as un visage devant une compagnie que tu vas vendre plus ton produit, c'est pas vrai. Ça dépend de la personne. Moi, j'ai une grande gueule, puis je parle bien, puis je suis un bon vendeur. Je le sais. Mais il y en a aussi qui ne sont pas, mais qui sont des très bons gestionnaires d'entreprise. Je vais vous dire la vraie vérité, je suis pas un tant bon gestionnaire d'entreprise parce que je m'entoure de très bonnes personnes qui la gèrent pour moi et avec moi. Je vais vous dire aussi bien franchement, si j'étais un très bon gestionnaire d'entreprise, je serais pas une figure publique, mais je sais que je suis bon là-dedans. Fait que la jeunesse, c'est un peu ça, c'est un peu spécial. C'est le yin et le yang en même temps. C'est un couteau à double tranchant, c'est très compliqué. Fait que il y aura toujours des détracteurs, puis il faut que tu sois prêt à faire face à la musique pour ça. Fait que Oui, le personal branding est important, mais le branding de ton entreprise l'est encore plus.
Mais j'avais vu, puis corrige-moi si je me trompe, tu avais fait un entretien avec Martin Latulippe en 2018, puis tu disais que la manière que tu avais commencé avec le Beach Club, je pense que ton père, vous veniez de faire une sortie d'entreprise, donc vous veniez de vendre une organisation, vous aviez de l'argent disponible, vous regardiez des acquisitions potentielles, tu as trouvé le terrain du Beach Club, tu as fait l'achat, puis au départ, je pense que c'était supposé devenir des hôtels un petit peu, là, qui allaient se construire sur ce terrain-là. Finalement, bon, l'histoire, on a décidé autrement, puis ça a été une bonne décision, je crois bien. Mais à ce moment-là, ton personal branding n'était pas tellement développé. Est-ce que c'est là que tu t'es dit, bon, regarde, si j'ai à promouvoir des événements, si j'ai à promouvoir des parties le jour, il faut que je mette une figure de l'avant. Y a-tu un déclic, tu t'es dit, si on veut faire lever ça, là, si on veut faire lever le party ici sans faire de mauvais jeu de mots, il faut faire les choses différemment.
C'était un apprentissage vraiment rapide de tout ça parce que, tu sais, on vient pas loin, là, en 2015, ça fait maintenant 6 ans, là. Les réseaux sociaux n'étaient même pas 1% de ce qu'ils sont en ce moment.
Oui.
Tu sais, Facebook, on se taguait au restaurant, on écrivait à notre mère, tu sais, il y avait pas vraiment personne de, oui, il y avait, non, au Québec, là, je parle, il y avait pas de personne vraiment de suivi. Instagram commençait à l'époque. Hey, je me rappelle, moi, je me suis créé un compte Instagram parce que mon directeur marketing m'a dit, Olivier, faut-tu te créer un compte Instagram, ça presse. Fait que même, j'avais un compte personnel, là, mais un compte plus un personnage public. Fait que tu sais, je suis un promoteur dans la vie, là, fait que je vends des billets. Fait que dans mon entreprise, c'est super important que le personnage soit mis de l'avant, comment je pourrais dire ça? Oui, justement, le promoteur, comme un promoteur de boxe ou peu importe. Mais tu sais, si j'ai, encore une fois, je le redis puis je le regrette pas, là, d'être devenu le personnage public que je suis, mais avoir su tout ce que ça entraîne, j'y repenserais deux fois comment je l'ai fait. Tu sais, là, je l'ai vraiment fait puis je l'ai joué puis j'ai jamais été gêné de le dire. Je l'ai joué, mon père a de l'argent, il m'a aidé, ça a fait jaser, pas-en bien, pas-en mal, mais pas-en. Moi, je vends des billets, je vends des canettes de BJ every day, je vends des poutines, comme, je veux dire, c'est pas tout le monde qui va m'aimer puis c'est pas tout le monde non plus qui m'aimeront pas. Fait c'était une décision facile à prendre dans ma business, dans mon entité de business, dans ma vision d'entreprise. Bon, demain matin, je vais dans l'informatique, je pense pas que je vais être un personnage public. Mais à l'époque, pour vendre des billets, je suis tombé avec une page Instagram de 50 000 personnes parce que l'ancien propriétaire avait fait quand même une bonne job sur Facebook. Fait que, tu sais, il y avait pas de page Facebook de 50 000 personnes au Québec. Fait que j'ai comme commencé à poster plein de trucs pas rapport avec le Bichat, mais qui ont rapport avec moi. Puis là, ça a monté. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben là, faut que je me crée une page, ça n'a plus de bon sens, parce que là, on ne parlera plus de mon entreprise. Mais l'entreprise vient avec moi. Puis oui, je suis le visage, mais de promotion, mais de moins en moins, l'entreprise dépend de moi. Fait que, tu sais, l'important aussi, c'est de faire des bons deals. On va sûrement en parler là, plus tard dans ton entretien, mais avec les canettes BJ Everyday, je pense que j'ai plus besoin de poster ou faire quoi que ce soit. Quand une nouvelle saveur qui sort est sur les tablettes, c'est la compagnie de distribution avec qui je fais affaire qui fait la job pour moi. Moi, c'est un add-on, là, un plus-value. Oui, j'en parle, là. Mais pour le BJ Shop, ça a été un incontournable que je devienne une personnalité publique puis ça a bien fonctionné.
Intéressant. Fait que ça dépend un petit peu dans quelle entreprise, on va dire, que tu es. Maintenant, j'aimerais te poser des questions. Une des grosses difficultés que je vois avec des influenceurs, des gens qui se mettent en ligne et qui bâtissent une audience engagée, c'est le fait à un certain point d'être capable de monétiser cette certaine audience-là. Mmh. Donc, y en a qui ont beaucoup de fans, beaucoup de gens qui les suivent, mais c'est pas facile de leur faire acheter le produit qu'ils veulent promouvoir. Toi, de ton côté, ça l'a très bien fonctionné. On était capable de voir des sold-out que tu as fait avec le Beach Club. Tu es également, comme j'ai dit plus haut, engagé dans d'autres événements, dans d'autres organisations. Ça serait quoi un petit peu le tips que tu pourrais donner à l'audience aujourd'hui, qu'une audience qui est engagée, de trouver la manière à un certain point de faire en sorte que cette audience-là achète le produit que tu vends?
Premièrement, vous avez beau avoir la meilleure idée au monde, le meilleur produit au monde, si vous avez pas une bonne façon de le vendre, ça fonctionnera pas. Fait que moi, j'ai vu que j'étais capable de vendre énormément de trucs en ligne. Ça a super bien marché. Et j'ai compris très tôt dans l'aventure du Beach Club, dans ma deuxième vie, là, que j'appelle là, après les IGA, que les vedettes font vendre. Ça prenait des vedettes. Et là, on me parlait de DJ. Tu sais, moi, j'étais pas un grand amateur de DJ à l'époque. J'étais un amateur de musique depuis que je suis tout jeune, mais d'aller voir des spectacles, tout ça, j'y allais pas vraiment. Dans le fond, je vais vous dire la vraie vérité. Au Beach Club, c'est quand je suis allé le visiter, c'était la deuxième fois de ma vie que je voyais un show de DJ. Fait que, juste pour vous dire, là. Mais j'ai compris que les DJ avec des gros noms, les David Guetta à l'époque, les gros noms vendaient, même si je payais plus cher, j'allais vendre des billets plus chers, puis j'allais en vendre plus. Fait que je me suis collé sur des vedettes, ça a très bien fonctionné pour moi. Puis tu sais, ce que je disais tantôt, t'as bien beau avoir le meilleur produit au monde si t'as pas la bonne façon de le vendre. Tu sais, moi, mes produits, mes Beach Day Everyday, quand j'ai voulu lancer ça en 2017-2018, j'avais oui des bons contacts à cause des épiceries de ma famille. Je connaissais les distributeurs, mais puis c'est peut-être comment je pourrais dire ça? Audacieux là, de ma part de dire ça, là, mais je voulais être avec le plus gros. Quand t'es avec les plus gros, tu te bats contre les plus gros, même si t'es petit. Fait que j'ai tellement mis d'efforts, j'ai tellement été fatigant avec la BAP, qui est le plus gros joueur au monde dans l'industrie brassicole. Ça a pris un an, je me suis fait dire non 30 fois. Puis j'ai d'autres joueurs qui me disaient oui, mais moi je vais le faire. Mais je me suis dit, tant qu'à rentrer, je vais le rentrer pour le vrai. Puis comme de bien fait d'attendre, tu sais, il faut savoir aussi choisir ses partenaires. Il faut savoir aussi qu'en business, t'es mieux d'avoir 10% de quelque chose de gigantesque, 100% de quelque chose de juste correct. Il faut savoir comment travailler avec des partenaires. Puis il n'y a pas de miracle. C'est du travail, c'est des contacts, c'est comment tu le fais. Fait que j'ai bien choisi mes partenaires. Puis j'ai, tu sais, pour Beach Day Everyday, je vais vous donner. Parce que j'aime parler de Beach Day Everyday justement parce que ça va faire 2 ans que le Beach Club est fermé parce que cet été, il n'y aura sûrement pas de show à 99,9%. Et mes produits montent de 200-300% par année parce que, justement, on a fait une bonne job au début en les promouvant, en faisant la promotion de ces produits-là au Beach Club. Mais j'ai compris quand le Beach Club allait fermer, j'ai eu peur pendant un mois. Je me suis dit, crime, tu sais, ça fait vendre tellement de mes produits. Puis j'ai compris que c'était pas là du tout que ça se passait puis que je mettais mon effort pas à la bonne place. Fait que depuis que j'ai compris ça, ça a tout changé. J'ai re-signé mes deals de distribution. Pour avoir le plus de produits possible. Fait que c'est des stratégies un peu... comment je pourrais dire ça? Ça dépend tellement de l'entreprise dans laquelle vous êtes que oui, il y a des conseils à donner, mais en même temps, il n'y a pas de miracle, il faut travailler puis il faut avoir la meilleure stratégie de distribution possible pour des produits.
Intéressant. D'ailleurs, tu en as parlé des partenaires. Moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la manière que tu opères pour tes différentes organisations. Donc, on le sait, tu sais comment ça marche, le marketing. Tu es capable de vendre des produits, tu es capable de vendre des billets, mais le marketing est une part essentielle dans une entreprise, mais ce n'est pas que ça. Hein? Ce n'est pas que ça, il y a un gros volet de gestion. Tu es engagé, les boissons Beach Day Everyday, le Beach Club, d'autres événements également. Moi, j'aimerais que tu me dises, dans ces diverses organisations-là, à la fin de la journée, ton rôle va être quoi spécifiquement? Est-ce que tu vas t'occuper davantage et uniquement du volet marketing? Vas-tu être impliqué dans d'autres sphères des organisations? Est-ce que c'est la même recette d'une entreprise à l'autre?
Je pourrais vous dire la joke qu'on fait à l'interne ici parce qu'on est quand même une grosse équipe. Je suis le président honorifique. Je ne sers à rien à part faire des stories. Le truc, c'est que je m'implique de A à Z, mais moi, je suis contre le macro-management. Là. J'aime pas. Là. Moi, je gère en gros. Fait que c'est pour ça que quand je vous dis de bien vous entourer, des fois, ça coûte cher. Des fois, ça peut coûter trop cher. Mais à long terme, ça rapporte souvent beaucoup plus que qu'est-ce que vous allez investir en salaire. Parce qu'il faut savoir que c'est pas une dépense, un salaire, c'est un investissement. Fait qu'à la fin de la journée, oui, je fais le marketing, mais je touche un peu à tout. Fait que je suis dans le développement des produits, je suis dans le développement des événements et tout ça. Mais c'est pas moi qui fais la grosse job de ça. J'ai une grosse équipe. Personnellement, je pense que j'ai la meilleure équipe marketing. Fait que eux, ils me proposent des trucs. Puis quand je décide que c'est oui, on le travaille ensemble. Puis là, je la propulse. On la propulse ensemble. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que je te dirais que sur un 100% de tout ce qui se passe, écoute, j'ai peut-être un 5%. Puis je suis content. J'aimerais ça gérer 1% pour vous dire que c'est toute mon équipe qui fait. C'est comme ça qu'une entreprise devrait fonctionner. Puis tu sais, c'est drôle parce que j'écoutais un documentaire sur Elon Musk. Puis il disait le même truc que je disais. Il dit, si je pouvais rien faire puis mon entreprise fonctionnerait tout seul, c'est parce que je serais le meilleur président au monde. Mais il faut quand même que je travaille encore parce que je suis pas capable justement d'emmener mon équipe au niveau qu'elle fonctionne. Pas tout seul, mais en voulant dire moins qu'un président d'entreprise en fait, ça veut dire plus que son équipe est bonne. Fait que j'aimerais faire rien, mais faut que je m'occupe, là, de la pandémie en plus. Fait que faut que je travaille un peu.
C'est ça, exactement. Mieux que les processus sont établis, moins que le président est impliqué dans toutes les sphères. Donc, effectivement, c'est un bon point. Pandémie, bon, on est obligé d'en parler un petit peu de ça. Tu es dans le secteur qui a été le plus impacté de tous les secteurs. La COVID-19 a pas été dans la dentelle avec le volet événementiel, on pourrait dire ça ainsi. Maintenant, ça fait, bon, on enregistre le podcast 3 février 2021. Donc, ça a commencé il y a à peu près un an de ça. Tu avais l'air de pas être super confiant pour la réouverture du Beach Club cet été. Comment tu as vécu ça? T'sais, dis-nous, là, si tu peux nous parler un petit peu aujourd'hui, au mois, c'est quoi, le 11 mars, je pense, 2020, qu'il y a eu l'annonce. Par la suite, ça l'a enchaîné puis ça l'a comme jamais arrêté depuis. Comment Olivier Primeau a vécu ça? Parce que, bien entendu, sans nécessairement dire que c'est ta seule source de revenus, le Beach Club, c'est un revenu considérable qui doit jouer dans ton portfolio d'entreprise. Donc, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment tu as vécu ça au niveau affaires, comment tu t'es ajusté également.
Ça a été une libération monstre sur mes épaules. Je vous explique pourquoi. Fait que moi, depuis que j'ai 5-6 ans, je travaille dans les IGA familiaux à mon père. Puis à 28 ans, j'ai décidé de changer de carrière complètement. Puis mon père, mon frère, dans le fond, on est un. Là. Tout le monde était d'accord avec ça. Et là, ça faisait 5 ans que je faisais ça 365 jours par année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je ne passais qu'aux événements, au détriment des autres projets que j'avais. Puis là, ça m'a fait réaliser que je mettais peut-être trop de temps là-dedans. Tu sais, quand t'es bien dans tes pantoufles, surtout dans une entreprise, tu penses que tout va bien, puis tu penses que t'es au top, mais t'es jamais au top. Jamais, jamais. Il n'y a pas de top, dans le fond. Fait que ça m'a libéré pas un stress physique ou mental, un stress d'entreprise, de préoccupation de mon temps énorme, puis j'ai pu développer tout le reste. Tu sais, je vais encore parler de mes produits BG Everyday. Si il n'y avait pas eu la pandémie, je ne crois pas que les produits seraient rendus là parce que j'ai mis tellement d'efforts et de temps à les développer. Puis là, en ce moment, c'est une jeune entreprise. C'est je pense qu'on commence notre troisième année de vente. Puis c'est exponentiel, là, 100 fois ce que le Beach Club ou n'importe quel festival pourrait me rapporter dans ma vie. Fait que,
oh wow.
Ah ouais, exactement. C'est 99% de mon chiffre d'affaires, même si on était ouvert en ce moment-là. T'sais, c'est pour ça que je pousse aussi beaucoup de produits de retail. On a beaucoup de riz de ma poutine, mais c'est un succès commercial gigantesque. T'sais, je fais ça depuis que je suis tout petit du retail. Je connais ça sur le bout de mes doigts. J'en ai placé de la poutine, j'en ai dépacté de la bière puis de la liqueur. Puis ici, puis ça, je sais comment ça fonctionne. Je sais comment tu peux en vendre. Fait que là, je pense que le tournant d'événementiel, pour moi, est arrivé. Je voulais le club numéro 1 au Canada. Je l'ai eu. Et en business, les amis, c'est pas vrai qu'on peut pas changer 50 fois de carrière dans une vie. Garde, j'ai été promoteur d'événements, je pense que je vais le rester encore là, quelques années. Je vais-tu faire ça encore longtemps? Je le sais pas. Là, en ce moment, je suis un groupe de breuvage, si on veut. Puis j'adore ça. Je vais-tu faire ça toute ma vie? J'en ai aucune idée, je penserais pas. Mais tu sais, moi, mes cycles que j'aime beaucoup, là, c'est entre 5 et 7 ans. Habituellement, entre 5 et 7 ans, soit que en homme d'affaires, je veux revendre pour justement avoir, excusez l'expression, mais avoir mes billes. Fait que là, garde, justement, ma troisième année, Beach Everyday, en reste peut-être 3-4 avant que je fasse un gros coup d'argent avec ça. Même chose pour le Beach Club, là, je l'ai fait. Écoute, ça a été dur les 2-3 premières semaines parce que je veux. Tu sais, ça me manque faire les événements, ça me manque être dans les événements, ça me manque parler au monde. Sauf que là, on n'a pas le choix. Puis il n'y en aura pas cette année non plus. Fait que j'ai pas le choix de me réinventer dans d'autres choses. Fait que ouais, ça a été difficile, mais ça a été un stress relief là, gigantesque dans ma gestion de temps. Ça prenait trop de mon temps, puis je l'ai réalisé avec le temps. Puis je pense que c'est juste du bien. Pas pour tout, mais pour mon temps, puis pour le développement de mon business, ça me fait un grand bien.
Ben, là, ce que tu viens de me dire, je trouve ça fascinant. Tu sais, dans le sens qu'on les voit, tes produits Beach Day Everyday, on les a vus, tes poutines également, mais bien entendu, ils n'ont pas la même couverture médiatique que le Beach Club peut avoir. Donc, c'est sûr que d'un point de vue externe, tu as l'impression que le Beach Club, c'est la grosse machine, c'est ça qui génère de l'argent, c'est ça qui génère du profit, mais au final, ce que je t'es en train de me dire subtilement, c'est que c'est peut-être davantage ces boissons-là qui font en sorte que l'entreprise est capable de grossir, là, présentement.
Ben c'est 100% à cause de ces boissons-là puis tous les trucs. J'ai investi dans plein de produits retail que je parle même pas parce que c'est des trucs qui se vendent seuls. Puis j'aime donner un exemple extraordinaire de ce que je suis en train de vous expliquer. Le groupe québécois, TVA, on en parle tout le temps, LCN, on en parle tout le temps, TVA Sport, etc. on entend beaucoup moins parler de Vidéotron, qui sont 95% de leurs revenus.
Oui.
Fait que, tu sais, des fois, il faut prendre un pas de recul puis regarder l'entité au complet puis dire, bon, est-ce que ça a de l'allure qu'ils fassent de l'argent avec un DJ qui paye 300 000 US quand il y a 5 000 personnes qui ont payé 50$? Le calcul arrive même pas. Bon, mais alors, pourquoi je fais ça? Avec quel argent je le paye? Tu sais, c'était ça m'a servi beaucoup, beaucoup aussi à faire de la pub pour mes boissons. T'sais, tout le monde qui nous suit sur les réseaux sociaux pendant les festivals puis tout ça, la seule chose qu'on voit dans nos publications, c'est des canettes puis des DJ. Fait que c'est une méthode marketing qui date du début du marketing, c'est du 360. Tu parles de quelque chose pour vendre quelque chose d'autre.
Exact.
Je l'ai vu comme ça, puis les canettes, peut-être qu'un jour, ça va être le même truc, mais ça va me faire vendre quelque chose d'autre qui va... C'est un cercle en infini. C'est pour ça que j'aime être un entrepreneur. C'est très stressant, c'est extrêmement demandant, mais tu peux être imaginatif à l'infini.
On pourrait-tu dire que quasiment, là, si tu prends ça d'un point de vue externe, le Beach Club et tes différents événements, c'est un petit peu le lead generation pour les différentes canettes que tu vends, parce que ça devient la vitrine de commercialisation d'un produit qui, de ce que tu es en train de me dire, fait énormément plus de profitabilité.
Exactement. Ben, celui-là, tu sais, au début, je te cacherai pas, là, les deux premières années, c'était juste ça. Puis c'est pour ça que je t'ai dit, quand les événements fermés, je me suis dit, j'étais en pleine croissance de mes produits dérivés, ça va me faire mal, tout ça. Mais j'avais sous-estimé, encore une fois, la présence. Tu sais, quand je vous dis que c'est important d'avoir des bons partenaires qui sont bons dans ce qu'ils font, ben moi, avec la BAT, c'est le meilleur et le plus gros distributeur au monde. Fait que, tu sais, j'étais dans 5000 points de vente. Dans le fond, j'avais pas besoin d'un autre point de vente qui était le Beach Club. À chaque fois que tu vas au dépanneur, tu vois mes canettes partout. Fait que j'ai réalisé que la publicité, c'était pas au Beach Club, fallait que je la fasse. C'était dans les dépanneurs. Et de là a été créé le mini-moi dans les couches-tards. Mais ici, il est ça. Fait que tu rentres, tu me vois quand même partout. Fait que, tu sais, on a redirigé notre investissement marketing qui était dans l'événementiel, dans le retail. Tu sais, quand je vous dis que c'est un 360, c'est important. Fait que c'est ça. Mais là, regarde, on parle de lancer nos produits aux États-Unis.
Oh.
La stratégie marketing, c'est de faire des shows pour le faire connaître. Et non seulement juste dans les points de vente. C'est comme ça que je l'ai fait ici, je vais leur faire pareil là-bas. Bon, là, en ce moment, à part en Floride, tu peux pas vraiment faire de show nulle part. Mais, je suis en train vraiment de me demander si je vais réutiliser la même stratégie. Fait que, tu sais, c'est du marketing. Tant qu'à dépenser 300 000 $ sur des panneaux d'autoroute, j'aime mieux faire venir Martin Garrix devant 100 000 jeunes qui vont boire ma boisson. Fait que, c'est un play-by-play, c'est un 360, c'est l'innovation du marketing au maximum. C'est, tu sais, on parle souvent, moi, mes deux grands modèles, comme plusieurs entrepreneurs, c'est Elon Musk, puis j'ai eu longtemps Steve Jobs. Tu sais, Elon Musk parle souvent de d'autres trucs, Hyperloop, puis ci, puis ça. Il fait pas une scène avec ça, mais ça lui fait parler de ces Tesla, parce qu'il arrive en quoi dans son Hyperloop? Mm-hmm. En Tesla. Il envoie quoi dans l'espace? Une Tesla. Fait que, tu sais, c'est... Quand tu y penses comme ça, peut-être que SpaceX un jour va valoir plus cher que Tesla, mais pour l'instant, c'est le contraire. SpaceX, ça part de où? Ça part de son parking de Tesla. il est pas stupide. Puis quand je me base sur un modèle d'affaires comme ça, c'est drôle parce que la semaine passée, je suis en train de finir sa bio parce que j'aime bien la relire de temps en temps. Et c'est fou à quel point des personnages comme ça font les mêmes trucs. Tout le monde fait les mêmes trucs. Ils prennent quelque chose pour vendre quelque chose d'autre. Ils l'amènent là pour parler d'un autre truc. T'sais, c'est souvent la diversion. Fait que je prends comme exemple son lancement de sa camionnette quand il a mis un coup de masse et il a éclaté la vitre qui n'était pas supposée. Un jour, on va savoir que c'était arrangé pour faire parler de lui.
mais tu sais, ce qui est fascinant, c'est que ce que tu dis, c'est tellement vrai. Mais tu sais, à un certain point, je me pose même les questions des fois s'il s'en est même rendu compte que ça a été un méchant bon coup de marketing, tu sais. Peut-être que tout a été planifié, mais au final, ce vidéo-là a été vu je sais pas combien de millions de fois sur YouTube, a fait parler de lui en bien. Tu regardes tous les podcasts qu'il a donné après sur Joe Rogan, tout le monde parle de ça, etc. Donc, effectivement, mais Elon Musk, c'est ça qui est complètement fascinant, c'est qu'il investit aucunement en marketing, mais s'il y a une chose qui est plus fort que n'importe qui sur la Terre, c'est le marketing. Il fait un talk, puis automatiquement, ce talk-là va faire vendre, je sais pas, 500 000 de Tesla dans l'année qui va suivre.
Exact, mais on investit zéro en marketing ici. Zéro, zéro, zéro. Dans notre chiffre d'affaires, c'est même pas 1%. Parce que nous, on est une compagnie de marketing qui vend un produit. Fait que c'est ça qu'on fait dans la vie. C'est pour ça qu'on vend de tout, parce que c'est notre personal branding qu'on vend, c'est le vibe, c'est le beach day everyday, c'est ça qu'on vend. Fait que, tu sais, j'ai souvent mon banquier me dit, Olivier, faut que tu dépenses plus en marketing. Non, ça va pas me faire vendre plus. Mon marketing, c'est moi. C'est la fameuse article mal compris à 5$ qui fait parler de moi. C'est mon site Beach News Everyday que 95% du monde qui vont dessus chiale, mais ils vont pareil. C'est des trucs comme ça. Fait que, à la place, justement, d'investir de l'argent. Parce que, dans le fond, l'argent marketing que les autres compagnies dépensent, je la dépense moi aussi, mais c'est en d'autres trucs. Fait que, tu sais, lancer des produits à toutes les semaines, c'est pas tant payant. Fait que ma poutine, j'en vends énormément. Mais tu sais, je fais pas d'argent avec ça. Mais, ça fait parler de moi. Tu rentres au magasin, ah, regardons là, il y a encore lancé un autre produit, c'est fatigant. Mais j'en parle tellement, je vais être goûté. Puis là, whoop, et finalement, j'aille pas ça. Puis nanana, tu sais, ce message-là, je le reçois tout le temps. Hey, j'étais, puis nanana, puis là, j'étais chez un ami, puis j'ai goûté à ta boisson. Finalement, je t'aime pas plus, mais elle est bonne. Fait que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, si t'aimes les produits que je fais, moi, je suis bien content. Moi, je veux juste rendre le monde heureux. Je vends du fun. Là. Fait que c'est ça mon fun, c'est ça ma job.
Avant de te laisser filer, Olivier. Je suis curieux, je pose tout le temps ces questions-là en fin de discussion. Est-ce que tu lis un peu des livres d'affaires? Tu viens de parler d'Elon Musk, j'ai adoré sa biographie. En as-tu d'autres qui ont marqué ton esprit?
Je lis aucun livre d'affaires, de trucs d'entrepreneuriat et tout ça. Moi, je suis un grand fan de biographie, un énorme fan de biographie, parce qu'en lisant la biographie, tu apprends tous ces trucs, tu vois comment les personnes pensent. Tu sais, même moi, mon petit livre que j'ai écrit, j'aime pas dire que c'est une bio, là, parce que je l'ai écrit, j'avais 33 ans. Il y a quelques personnes qui m'ont écrit, disant, ah, on pensait que tu donnais des trucs. Le truc que je donne dans le livre, c'est mon histoire, c'est comment j'ai fait pour tout développer ça. Fait que, tu sais, si les gens se fient juste à des trucs dans un livre, tu sais, un de mes livres préférés, c'est Père riche, père pauvre. C'est son histoire qui explique qu'il donne pas de trucs. Il explique ses échecs, il explique ses succès, il explique sa relation avec son père, blablabla. Fait que, oui, pour certaines personnes, ça prend des livres qui donnent des trucs, tout ça, puis c'est bien correct. Mais pour moi, c'est complètement le contraire. Moi, je veux être inspiré d'une histoire. C'est comme ça que mon entreprise grandit. Je m'inspire d'histoires de d'autres.
Intéressant. Podcast, audiobook, est-ce que ça joue un petit peu dans ta voiture sur des podcasts, peut-être présentement?
Ça joue.
Parce que t'en as un, toi aussi.
Oui. Puis il va super bien. Ben là, moi, c'est un podcast de prédiction sportive parce que justement, j'étais tanné de faire des comment je pourrais dire ça. Tu sais, tout le monde me disait, faut que tu fasses un podcast entrepreneurial, faut que tu fasses un podcast. Je dis pas que je le ferai pas un jour, mais tu sais, le podcast, je le fais parce que j'ai une plateforme puis j'adore parler de football. Fait que oui, j'écoute des podcasts, mais j'écoute pas des podcasts, comment je pourrais dire ça. J'écoute pas Joe Rogan dans mon auto, là. C'est pas ça du tout, j'écoute. J'écoute beaucoup de livres audio, justement. Fait que quand j'écoute quelque chose, c'est souvent une biographie audio. Fait que non, mais des genres de podcasts comme on fait aujourd'hui, j'aime ça quand c'est avec des entrepreneurs que j'adore ou des personnes que j'aime. Mais sinon, écoute, on a tous nos trucs. Moi, j'aime pas, je suis pas un fan de découvrir des entrepreneurs, entrepreneuses dans des podcasts. J'aime suivre quelqu'un qui va me dire, hey, je suis sur le podcast de quelqu'un, allez m'écouter, vous allez en apprendre plus sur moi. Ça, c'est correct. J'aime moins découvrir des entrepreneurs, entrepreneuses comme ça, random, parce que je sais pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient avant, je sais pas trop leur histoire. C'est pour ça que je lis des biographies, puis j'adore ça. Mais je comprends qu'il y a énormément de personnes qui aiment ça. Mais tu sais, moi, je suis un entrepreneur, puis tu sais, les gens écoutent des histoires un peu, tu sais, à la Elon Musk, à la Steve Jobs, à la Guy la Liberté. Moi, ça, c'est plus mon truc qui joue dans mon auto, là.
Intéressant. Dernière question que je te poserais. Routine, ça ressemble à quoi, toi, ta routine, quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir? Est-ce que c'est très cartésien ou ça bouge d'une journée à l'autre?
Ça bouge énormément, ce qui est cartésien, puis il y a énormément de personnes qui me le demandent souvent. Le seul truc cartésien, c'est je réponds à tout le monde. Sur mon Instagram, c'est moi qui réponds à tout le monde qui m'écrit. Fait que ça me prend un bon... écoute, je te dirais entre 2 et 4 heures par jour. Juste ça, fait qu'en 2 heures le matin, c'est comme pour moi répondre à mes emails. Fait que je réponds à tout le monde, que ça soit négatif, positif, qu'il y a des questions, si tu vends tes poutines, tes ci, tes ça. Le rapport humain, là, je l'adore, puis j'aime... Tu sais, il y a énormément de personnes. Une personne sur deux qui m'écrivent, ils sont comme, je pensais jamais que t'allais me répondre. Non, je réponds, puis c'est moi qui réponds. Parce que, peut-être qu'un jour, je serai plus capable parce qu'il va en avoir trop. En ce moment, je les gère, j'ai peut-être, je sais pas, moi, 600-700 messages par semaine. Fait que, je suis encore capable, mais tu sais, faites des calculs, ça fait quand même au moins 100 par jour, là. Plus les Facebook, plus les ci, plus les ça. Mais sur Instagram, j'aime essayer de répondre à tout le monde. Bon, c'est sûr que si tu m'envoies chier, je vais te répondre bonne journée, là. Mais j'ai souvent des jeunes qui me demandent des conseils puis tout, j'aime répondre. J'aime avoir le contact parce que c'est mes clients, j'aime prendre le pouls. Tu sais, quand tu as un produit comme le mien en vente partout, c'est important de savoir bon si la personne elle aime ça, si c'est bien placé, si c'est ça. Fait que mes discussions tournent surtout autour de ça. Fait que non, j'ai pas de routine. La seule routine que j'ai, c'est de répondre à tout le monde matin et soir.
Olivier, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le podcast. Puis peut-être, avant de te laisser filer, où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi? Où est-ce qu'on peut découvrir tes différents produits? Parce qu'ils commencent à en avoir quelques-uns.
Oui, ben là, ici, en partant, dans ton podcast, il était très bon. Mes réseaux sociaux, là, c'est juste ça que je parle. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent, oh, tu poses tout le temps les mêmes trucs. Ils ont absolument 100 000% raison, sauf que c'est mes trucs que je pose. Je fais plus vraiment de collaboration avec personne à part des trucs que j'aime bien, là, mais tu sais, je promouvois mon propre produit. Puis je reviens souvent à Elon Musk. C'est très rare que Elon Musk parle pas au moins une fois par jour de ses produits. Là. Fait que c'est mon modèle d'affaires de marketing. Je pense que je le réussis bien. Fait que sur les réseaux sociaux, vous allez tout apprendre de moi de A à Z, ce que je mange, à qui je parle. Vous verrez pas avec qui je suis dans la vie de tous les jours parce que je garde ça secret, mais vous allez voir tout le reste.
Bon, ben merveilleux. Merci beaucoup, Olivier. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Très souvent connu comme un influenceur, je considère personnellement Olivier comme un homme d'affaires qui comprend le marketing mieux que personne. Avoir des festivals autant populaires, ainsi que des produits qu'on retrouve dans tous les supermarchés, n'est pas un hasard. Tout ça vient d'une stratégie de commercialisation bien planifiée qui a fait ses preuves depuis plusieurs années maintenant. Également, on a lancé nos nouveaux médias sociaux pour Hypercroissance en créant des pages totalement séparées à G7 Media. On vous invite à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram afin de voir de courts extraits vidéo de tous nos podcasts depuis le début. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.